This is Radio Free Europe.
Minutos en Colombia.
Radio Dacha. France Inter. Le 18-20.
Le 18-20, ce soir en Pennsylvanie, aux États-Unis, retour dans la Rust Belt, cette ceinture de l'industrie américaine en crise. Et nous serons également au cœur de la Médina de Fès au Maroc, en pleine restauration. À 18h55, l'édito d'Anthony Bélanger sur un record dont l'Amérique se serait volontiers passé, record d'overdose aux opiacés de synthèse. Mais d'abord, les océans face au défi du changement climatique.
Michaël Thébault, un jour dans le monde.
C'était le 12 décembre 2015, un final en apothéose à la COP21, 195 nations qui approuvent l'accord de Paris sur le climat, avec un objectif clair et ambitieux, contenir le réchauffement climatique bien en dessous de 2 degrés par rapport au niveau pré-industriel, et puis si possible poursuivre les efforts pour limiter la hausse des températures à 1,5 degré. Engagement aussi en faveur du désinvestissement des énergies fossiles, aide climatique aux pays en développement. Beaucoup a été dit, beaucoup a été promis, mais on a finalement assez peu parlé d'un acteur pourtant central dans le climat, ce sont les océans. Alors à 2 jours de la journée mondiale de l'océan, le 8 juin, on va tâcher de se rattraper ce soir. 2 invités avec nous en studio, Gilles Boeuf, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur à l'université Pierre et Marie Curie, spécialiste entre autres de biologie intégrative des organismes marins au laboratoire Arago, c'est à Bagnols-sur-Mer, et ancien directeur du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, et en ligne depuis New York, Françoise Gayle, bonsoir madame.
Bonsoir.
Ancienne directrice de l'Institut Écologie et Environnement du CNRS, vous coordonnez actuellement le conseil scientifique de la plateforme Océan et Climat. Alors commençons, actualité oblige évidemment, par la décision de Donald Trump jeudi dernier de sortir justement de cet accord de Paris sur le climat. Passé la consternation et la réprobation internationale, quelles sont, Françoise Gayle, objectivement, les conséquences réelles et concrètes de cette décision du président américain?
Eh bien, écoutez, pour l'instant, elles ne sont pas, en tout cas au niveau des Nations Unies ici, massives. J'étais ce matin dans une réunion arctique où le représentant des Nations Unies a été très mesuré et a rappelé que du point de vue du changement climatique, les scientifiques étaient tous d'accord sur le fait que ça existait et qu'il fallait s'en préoccuper, en particulier pour l'océan Arctique. Donc, je dirais que c'est vécu ici comme presque un non-événement, ce qui est inattendu a priori, mais un non-événement au sens où l'ensemble des pays sont tous unanimes pour reconnaître que c'est une réalité et que nous devons faire quelque chose pour le climat.
Donc, paradoxalement, plutôt rassurant, in fine.
Rassurant, et c'est vrai que bon, nous sommes dans un monde ouvert et c'est toujours salutaire de se rappeler que nous ne sommes pas forcément les seuls à vivre sur la planète et qu'il y a pire que nous, par exemple les petits États insulaires qui, eux, tous les jours savent très bien ce que ça signifie le changement climatique.
Alors on en vient précisément aux océans. D'abord, Gilles Boeuf, quel est le but de cette journée mondiale de l'océan, donc nouvelle édition jeudi?
Elle est ancienne, cette journée mondiale, hein, parce que moi-même je suis intervenu déjà au moins entre 7 et 10 fois. En fait, on avait décidé d'offrir des journées mondiales pour les femmes. Je ne sais pas ce qu'elles en ont sorti, il faudrait leur demander, effectivement, pour la biodiversité et l'océan. Donc, le 8 juin, tous les ans, avec une séance particulière à l'UNESCO à Paris, hein, on essaie d'attirer l'attention des gens sur ce qu'est l'océan. Je préfère dire océan que les océans. J'explique souvent que, en fait, l'humain a mis des limites sur des cartes, mais on a un seul océan unique, avec un tas de mers. Hein. Il y a une mer Baltique, une mer Méditerranée, une mer Caspienne. Mais parce que si l'océan était aussi divers que ça, s'il y avait des océans, il n'aurait pas le même rôle sur le climat que ce qu'on considère aujourd'hui. En fait, on a cette énorme masse d'eau, qui est d'origine extraterrestre, hein, il faut le dire, l'eau terrestre, elle vient d'ailleurs, et qui a totalement façonné l'histoire de la Terre et qui a un rôle fondamental sur la vie, puisque la vie va y apparaître il y a un peu moins de 4000 millions d'années. Et cet océan joue un rôle fondamental sur le climat. C'est le principal régulateur de par l'inertie de la masse d'eau en question. C'est le stockeur d'énergie. Hein. Depuis qu'on a commencé à émettre des gaz à effet de serre, l'océan a récupéré environ...
Ça absorbe.
Voilà, En gros, aujourd'hui, si on regarde le système énergétique, les 3 premiers mètres de l'océan stockent autant d'énergie que toute l'atmosphère. L'océan tout seul, c'est 93% d'énergie accumulée, qui restitue très lentement. Et en matière de CO2, hein, c'est ce gaz à effet de serre que l'on émet, qu'on utilise des énergies fossiles, comme le charbon ou le pétrole, il en stocke 26%. Donc c'est un puits de carbone. Il redistribue cette énergie de façon beaucoup plus parcimonieuse que ne le ferait une masse d'air. Et donc, effectivement, il a un rôle absolument essentiel sur le climat. Il suffit de voir hein, les régions qui sont effectivement qui bordent l'océan avec des climats beaucoup plus modulés, tempérés que les climats fortement continentaux. Donc un rôle essentiel sur le climat et un rôle essentiel sur l'origine de la vie et ensuite sur toute la Terre et les éruptions de la vie.
Rôle essentiel en ce qu'il régule le climat, Françoise Gayle, justement quand on a maintenant, c'est avéré, un réchauffement climatique, qu'est-ce qui se passe au niveau des océans ?
Oh, il se passe beaucoup de choses. D'abord, si vous regardez, par exemple, l'Arctique, il y a une évolution qui est extrêmement inquiétante puisque la glace de cet océan est en train de fondre, ce qui a des incidences sur, par exemple, l'eau qui va devenir beaucoup moins salée, qui va laisser exposer aux espèces qui sont à la surface de l'eau, une luminosité fantastique qui va entraîner une productivité, ce qu'on appelle la photosynthèse se développant galopante, et donc des conséquences aussi sur tout ce qui est pêche, puisque les espèces, par exemple, de l'Atlantique, les espèces de poissons, sont actuellement en train de migrer vers le pôle nord. Ce qui a des effets aussi du point de vue économique et du point de vue des sociétés qui bordent cette région-là de l'océan. Je suis tout à fait d'accord avec Gilles qui dit qu'il n'y a qu'un océan et je pense que c'est comme la planète. Il n'y a qu'un océan, il n'y a qu'une planète. Il n'y a pas de planète B ni d'océan B.
Gilles Boeuf, précisément, parce que c'est vraiment une question importante et absolument internationale, sur ses conséquences sur les ressources halieutiques. Expliquez-nous concrètement, là on parlait de poissons qui allaient migrer vers le pôle Nord, mais il se passe quoi comme autre conséquence sur la pêche directement ?
Sur le vivant, en général, y compris sur les humains. Hein. La température qui change a un premier rôle, c'est qu'elle augmente le métabolisme. Ça veut dire que notre activité métabolique augmente, on consomme plus d'oxygène. Alors bien sûr, c'est plus important sur les espèces qui n'ont pas une température constante. Ça, c'est vrai pour tous les êtres vivants, de bactéries jusqu'à même des animaux comme nous qui régulons la température. Par exemple, j'ai regardé les records du monde du marathon récemment, on les bat ni aux températures très basses, ni aux températures très hautes. Hein. On les bat vraiment entre 10 et 13 degrés, température optimale pour l'expression de l'activité physique dans ces conditions-là. Deuxième aspect extrêmement important, c'est les migrations, qu'abordait Françoise à l'instant. Alors, pour le marin, il y a un joli papier sorti il y a 2 ans qui nous dit que le plancton, il a fait 47 km par an, vers le nord dans l'hémisphère nord, vers le sud dans l'hémisphère sud.
Je ne me rends pas compte, c'est énorme.
Ah oui, bien sûr, c'est gigantesque, on ne migrait pas comme ça. Les poissons, c'est 27 km. Ça veut dire que les pêcheurs, pour revenir à la pêche, qui suivent ces poissons, le savent bien, leur stock se déplace. Par exemple, je prends un exemple, sur les lançons en Manche, ces lançons, ils avaient disparu. Alors, le changement climatique... Souvent, le changement climatique se surimpose d'ailleurs à l'activité de surpêche, déjà auparavant. Hein. Les lançons sont rendus en Écosse. On voit les anchois de la Méditerranée qui remontent. Nous, par exemple, en mer Méditerranée, on a récupéré récemment des dorades coryphènes, qui sont des poissons qu'on trouve communs, effectivement, aux Antilles ou dans l'océan Pacifique. Ils arrivaient du golfe de Guinée, ceux-là. Ce qui veut dire que toute la faune marine, qui est assez libre, parce que l'espace est ouvert par rapport au milieu terrestre, se déplace vers le nord dans l'hémisphère nord, à l'inverse dans l'hémisphère sud. Donc déjà, il faut les traquer différemment. Deuxièmement, rapidement, on va arriver à des relations avec tout le système. Par exemple, si les sardines s'en vont, les oiseaux qui mangent les sardines, ou ils migrent aussi pour les suivre, ce qu'ils font en général, comme les pêcheurs. Pour d'autres espèces, c'est plus compliqué. On a des cas, par exemple, qui sont connus, où la proie est partie, le prédateur n'est pas encore arrivé, ou l'inverse. Et là, bien sûr, ça pose des problèmes de dysfonctionnement des systèmes. Donc, les migrations
sont... toutes les chaînes qui sont menacées.
Totalement, ouais. Totalement. On a des jolis cas sur les oiseaux aussi, sur les oiseaux terrestres, sur les mésanges en particulier. Alors, en mer, c'est plus facile parce que on peut facilement migrer en mer, plus facilement que sur les terres, puisque sur les terres, on a des barrages, on a des zones qui font barrière, hein, des rivières, des montagnes. En mer, pas du tout. Et l'aspect aussi important pour la mer Méditerranée, qu'on aime beaucoup avec Françoise, c'est que là, on trouve pas la sortie. Donc il va y avoir une accumulation dans la mer entre l'Italie et puis les pays de ex-pays yougoslaves, la Slovénie, toute cette région-là, de poissons qui cherchent une sortie, ils vont pas la trouver. Alors ils peuvent rentrer en mer Méditerranée par le canal de Suez et rentrer et sortir par Gibraltar. Mais ça va poser un gros problème. Ils migrent moins facilement que dans les mers très ouvertes.
Ça signifie aussi de possibles disparitions d'espèces ?
Alors oui, à terme oui. Comme je dis souvent, bon, je ne connais pas d'espèce en France aujourd'hui qui a aujourd'hui, au moment où je vous parle, disparu à cause du changement climatique. Ce qu'on a vu, ce sont ces migrations. Par contre, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le changement climatique se surimpose à ce qu'on continue à faire. On détruit les écosystèmes, on les pollue, on dissémine tout partout et on surexploite, comme la pêche ou la forêt. Donc c'est vrai qu'il y a un problème, bien sûr, très fort. À terme, ça va poser des problèmes considérables, bien sûr.
Sur les populations humaines, cette fois, Françoise Gayle, menace à court et à moyen terme, hausse du niveau de l'océan, maintenant j'emploie le singulier grâce à vous. Et combien de millions d'individus, de potentiels réfugiés climatiques sont concernés, Françoise Gayle ? Est-ce qu'on a déjà une idée assez précise ?
Oui, ça a été discuté hier. Il y avait justement une session sur l'immigration avec l'Organisation mondiale des migrations et un certain nombre d'associations, dont la plateforme Océan Climat. Et ce qui a été énoncé, c'est qu'il y aurait plus de 40 millions de migrants qui seraient déjà identifiés, potentiels, dans les zones les plus, ce qu'on appelle les zones les plus fragiles. Par exemple, Madagascar a été très attentif à ce genre de choses. Il y a eu dans l'océan Indien une analyse faite avec le WWF et qui montrait justement les contraintes et les conséquences qu'il pouvait y avoir sur l'immigration humaine du point de vue du changement climatique.
Pour qu'on comprenne bien, un degré de plus, par exemple, Gilles Boeuf, ça correspond à quelle augmentation du niveau ? Est-ce qu'on a ce ratio ou pas ?
Oui, bien sûr, vous imaginez bien. Alors, ça paraît rien du tout, un degré, effectivement. Ce qu'il faut dire aussi à tout le monde, c'est que le climat a toujours changé sur la Terre. Il faut qu'on le dise, hein. On n'a pas de climat constant. Quand on parle de dérégulation, j'aime pas trop, parce que qui régulerait le climat ? La question, c'est que aujourd'hui, le changement est là. François le dit très clairement, il va beaucoup trop vite. Et le vivant a du mal à suivre. Alors, quand on est mobile, on peut migrer, mais c'est ceux qui font quelques millimètres par jour, ils peuvent pas migrer, bien évidemment. Hein, ça pose des problèmes. Donc, ce qui est clair, c'est que, par exemple, en France, on a calculé. On a fait un travail avec les sciences participatives. Hein, 1,5 million d'heures d'observation, 10 000 personnes, toute l'Europe de l'Ouest. Hein. Et on a montré que nos oiseaux avaient fait 33 km vers le nord en 18 ans, et nos papillons 114, c'est considérable. Et on montrait que pour un degré de plus, pour revenir à votre question, il doit faire 250 km vers le nord en plus. Donc ça accélère les mouvements en fait. Et c'est vrai que, je vais revenir aussi à l'histoire sur l'humanité, maintenant on démontre que 11% des conflits et des guerres actuelles sont déjà déclenchés pour des raisons de changements environnementaux, dont le climat. Je vais revenir à la Syrie, parce qu'on parle de la Syrie en ce moment en France aujourd'hui. Le conflit de Syrie qui commence en 2011 fait suite aux 12 années de pire sécheresse qu'ait vécu le croissant fertile depuis 3 siècles. Donc on voit que c'est pas des choses d'écolo farfelues dont on parle ici. Tout est lié, bien sûr. Hein. L'écologie, le changement climatique. Et ceci amène l'humain aujourd'hui à devoir réagir avec des capacités à prévoir plus loin que le bout de son nez. Et c'est le court-termisme actuel qui nous pose des problèmes pour la résolution de la prise en compte de ces questions.
Et Françoise Gayle, je reviens à ces 40 millions de réfugiés climatique potentiel directement concerné hein, par la montée des eaux. Au-delà de tous les engagements pris, la COP21, réitérée, la COP22, vous qui parlez en ce moment avec vos collègues des Nations Unies, est-ce qu'on envisage déjà des solutions concrètes, des relogements par anticipation qu'est-ce qu'on en dit ?
Oui, parce qu'il faut, parmi ce chiffre qui paraît énorme, pour un certain nombre de cultures, ceci fait partie de la vie quotidienne. Par exemple, les Polynésiens, c'est dans leur histoire de pouvoir migrer d'un point à un autre, puisque l'océan fait partie de leur mode de vie quotidien. Et il n'y a pas forcément de différence du point de vue de la propriété entre le terrestre, l'île et la mer, puisque la propriété justement terrienne est aussi mérienne. Donc, à ce moment-là, on voit les choses un petit peu différemment. Ce qui pour nous peut être dangereux actuellement, nous sédentaires, pour d'autres cultures, ceci est une façon d'organiser sa vie dans le futur. Et il y a déjà des plans, par exemple les îles Kiribati dans le Pacifique, qui ont déjà considéré le problème des migrations comme partie intégrante de la stratégie nationale. Donc il faut aussi voir la diversité des comportements qu'il peut y avoir par rapport à ça.
On parlait dans le journal de 8 heures ce matin, ici même sur Inter, de ce gigantesque morceau de banquise qui est grand comme un département français, hein, je crois 5000 km², et qui est en train de se détacher de l'Antarctique avec une fissure qui s'agrandit chaque jour, 17 km de plus en une semaine. Ça, c'est selon des chercheurs britanniques. C'est quoi le risque d'un tel phénomène, Gilles Boeuf ?
Alors, il est très simple parce que dans les prévisions du GIEC, Françoise parle de l'Arctique, on avait depuis longtemps intégré l'Arctique, parce que l'Arctique est en train de fondre à une vitesse absolument dramatique, qu'on n'imaginait même pas dans nos pires élucubrations. Souvent on accuse les chercheurs, avec Françoise on en parle souvent tous les deux, vous exagérez, vous faites peur aux gens. Et on est très solennels tous les deux pour dire que chaque fois qu'on a dit quelque chose, la réalité a été pire que ce qu'on avait annoncé. Donc je reviens à l'Antarctique sur votre question. Pendant longtemps, on n'avait pas trop bien pris l'Antarctique en compte parce que ça fondait d'un côté et ça se reconstituait de l'autre. Là, en ce moment, c'est clair, voilà, vous faites allusion à ce phénomène pointé par nos collègues britanniques, hein. C'est-à-dire que ces masses de glace gigantesques en train de fondre vont faire remonter le niveau de la mer, ça c'est clair. Le seul glacier Tolten en Antarctique, s'il fondait, c'est 7 mètres sur l'ensemble, effectivement, du monde. Ce qui fait que dans les prévisions du GIEC, on en parlait avec Valérie Masson-Delmotte récemment, dernier rapport du GIEC, on nous dit 1 mètre de plus à l'horizon 2100. On est maintenant à 2 mètres sur des travaux qui ont été faits, sur des travaux historiques. On a pu reconstituer des étapes de fonte des glaces en Antarctique, mesurer sur des carottes toujours, et faire les prévisions. 2 mètres, c'est considérable. Et je prends un exemple. Et ceci est assez répandu de façon différente sur la planète. Par exemple, on a un travail récemment qui a été présenté en Amérique du Sud. On montre que les glaciers des Andes ont perdu en 60 ans l'équivalent de la glace que l'Europe a perdue sur 3 siècles depuis le dernier petit âge glaciaire. Donc ça fond encore beaucoup plus vite dans ces régions-là. Donc, et c'est clair que l'Antarctique, s'il fondait massivement, nous amènerait à des remontées du niveau de la mer tout à fait considérables. N'oublions pas non plus, quand on parle de température, que quand on dit effectivement moins de 2 degrés, on a déjà 0,85 hein, depuis 1880. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne faut pas dépasser à nouveau 0,8. Et le drame sur l'océan, c'est qu'à 2 degrés, c'est déjà trop. On perdrait le corail. Or, le corail, c'est 1% de la surface de l'océan, mais c'est le tiers des espèces connues dans l'océan aujourd'hui.
Dernière question, parce que le temps file. La journée mondiale 2016 était consacrée au danger des plastiques, hein, gros déchets, puis surtout ces microparticules. On avait énormément parlé de ce continent à la dérive. Oui. On en est où, là, un an après ?
Alors, vous savez qu'on avait parlé donc de nouveaux continents, deux dans l'Atlantique, oui, deux dans le Pacifique et dans l'océan Indien. On a une ONG française que j'aime beaucoup, celle de Philippe Dexon, qui s'appelle 7e continent, et qui ont mis en évidence, qui sont allés voir sur place. C'est un skipper américain qui, un jour, en faisant, il y a une quinzaine d'années, États-Unis, Hawaï, qui s'était rendu compte, effectivement, de la réalité. Alors, on parle de continents, ce ne sont pas des continents, on ne peut pas débarquer dessus. C'est l'accumulation, grâce aux gyres océaniques, de milliards de petites particules. Elles font entre un demi-millimètre et 1,5 mm, rassemblées par les courants. Alors, ce qui est dramatique, c'est que, bien sûr, c'est transparent, ça flotte. La faune marine prend ça pour du plancton. Et deuxièmement, ça multiplie à l'infini les surfaces d'échange entre ces particules et l'océan. Et ça multiplie les quantités de virus et de bactéries. On a même un insecte qui s'est mis à proliférer là-dessus et qui trouve son compte. Hein, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Mais c'est vraiment une réalité qui est dramatique aujourd'hui. Et les collègues qui s'intéressent à ceci maintenant, où qu'ils aillent, en face de n'importe quelle ville française, trouvent ces accumulations de plastique.
Bon, on va vous réinviter tous les deux, Gilles Boeuf et Françoise Gaël. On a
quand
encore 40 questions à vous poser. Merci infiniment à tous les deux.
Avec plaisir.
Belle journée mondiale de l'eau. Donc ce sera jeudi, dans un instant, direction la Pennsylvanie. Mais d'abord, The Charlatans, Plastic Machinery.
Yeah.
Plastic Machinery, The Charlatans.
4:04.
BBC's Brian Hanrahan.
Buenos días, comienzan las comparecencias.
Thanks so much for that report.
Ailleurs dans le monde, avec vous Olivier Poujade, bonsoir.
Bonsoir Michael.
Et l'on reparle d'environnement, Olivier, direction précisément les États-Unis où le retrait de l'accord sur le climat, donc décidé par Donald Trump, n'en finit pas de faire des vagues.
Une déferlante de réaction qui a d'ailleurs dépassé les frontières américaines. Ce retrait a même galvanisé le soutien en faveur de cet accord, estimait hier la ministre canadienne de l'environnement. Mais c'est effectivement sur le territoire américain que les réactions sont les plus vives et les plus partagées. Près d'un Américain sur deux désapprouve le retrait. 38% saluent l'initiative de Trump. C'est ce que révèle aujourd'hui une enquête Reuters-Ipsos réalisée ce week-end aux États-Unis où nous retrouvons en direct notre reporter Philippe Randet. Bonsoir Philippe.
Bonsoir.
Philippe, vous avez vous aussi mené votre petite enquête en Pennsylvanie, l'endroit le plus concerné par ce discours, dans la Rust Belt, l'un des fiefs de Donald Trump.
La Rust Belt tire son nom de ses dizaines d'usines rouillées, de ses voies ferrées abandonnées qui donnent parfois à cette région des allures de train fantôme, comme si la vie s'était arrêtée à la fin des années 70 au moment de la désindustrialisation et de la disparition du charbon et de l'acier. Et c'est ici que Donald Trump a fait ses meilleurs scores. Quelques mois plus tard, c'est pour cette base électorale, cette classe ouvrière blanche qu'il a tourné le dos à l'accord de Paris, estimant que cet accord désavantageait les industries lourdes et l'extraction minière.
Et donc, Philippe, ces électeurs ont-ils apprécié le geste ?
Plus que ça, même tous les pro-Trump que j'ai croisés dans le village de Johnstown sont fiers et flattés. Ils se sentent presque plus importants qu'Emmanuel Macron ou Angela Merkel. Le 45e président des États-Unis a tourné le dos au monde pour s'occuper de nous. Voilà ce que pense Joe, un ancien ouvrier.
Il fait ce qui est bon pour cette région. Concernant l'environnement, je ne crois pas à ce qu'on dit, à toutes ces suppositions qu'ils font. Les gens autour d'ici sont contents de ce qu'il est. Cette région a été dévastée, pas de boulot, et cette décision va aider la région. Il va remettre les mineurs de charbon au travail. Beaucoup de gens ici dépendent de l'industrie du charbon. On a élu Trump, on croit en lui, et il croit en nous.
Même fierté pour Robert qui, avant d'accepter de répondre à l'interview, a exigé de voir une carte de presse expliquant, je cite, que tous les médias racontent n'importe quoi et sont contre Donald Trump.
On est là pour gagner de l'argent et ces gens que ça dérange sont ceux qui bossent pas. Alors oui, je pense que Trump a pris la meilleure décision. Il va aider les mineurs de charbon et les travailleurs de l'acier maintenant. C'est une bonne voie à suivre.
Est-ce que vous pensez que c'est dangereux pour la planète ?
Oh non, je pense pas du tout que la planète souffre à cause d'Amérique. L'Amérique est grande, c'est vrai, mais je pense pas que ça affecte le monde entier. C'est à chacun, vous savez, de prendre soin de sa propre terre.
Mais ce qui est intéressant, c'est que ce discours change radicalement à tout juste 1h30 de route de là où vous vous trouvez, Philippe.
Oui, à Pittsburgh, 300 000 habitants, ces nombreux ponts en acier qui enjambent les deux rivières. Pittsburgh qui est devenu un symbole, le symbole car Donald Trump, lors de son discours de sortie de l'accord de Paris, a nommé la ville en disant, je cite, « J'ai été élu pour représenter les habitants de Pittsburgh, pas de Paris. » Sauf que Pittsburgh est une ville qui a choisi Hillary Clinton à 80%. Pittsburgh est une ville qui, effectivement, a été la capitale de l'acier et des industries lourdes dans les années 70. Mais aujourd'hui, cette ville revit grâce à l'économie verte et aux nouvelles technologies. Vous imaginez donc la tête des habitants quand ils ont entendu Donald Trump. Mark Dixon est un des nombreux activistes écologistes de Pittsburgh. Il était sur son canapé devant sa télévision jeudi dernier au moment du discours. C'est sur ce même canapé que je lui ai demandé qu'est-ce qu'il a ressenti quand il a entendu le mot Pittsburgh.
C'était comme un... comme une onde de pression, comme un avion de chasse qui passait au-dessus de ma tête. Un peu comme un boom sonique. Comme un moment de tremblement de terre dans mon cœur et dans ma tête. Parce que Pittsburgh a une communauté dynamique qui travaille pour un fort objectif climatique. Il a fait une erreur monumentale en caricaturant Pittsburgh comme l'endroit où on ne se soucie que du charbon.
«
Et pour montrer à Donald Trump qu'il a fait une erreur monumentale, ils étaient près de 2000 ce week-end à chanter « This land is your land » dans les rues de Pittsburgh. Certains étaient venus avec des drapeaux français pour montrer leur attachement à l'environnement et à l'accord de Paris. Le maire démocrate de Pittsburgh, Bill Peduto, était lui aussi présent, appelant à la résistance.
On va le faire quand même. Cet accord a été une prise de conscience que le monde peut résoudre un problème majeur grâce à la façon dont on vit. Qu'est-ce que vous faites dans votre quotidien? Qu'est-ce que votre famille fait dans sa maison, son quartier ou sa ville? Et moi, j'ai été fier qu'on soit une des premières villes à suivre l'accord de Paris. Du coup, que Trump choisisse Pittsburgh n'a pas été seulement un choc, mais aussi une insulte.
Et comme Pittsburgh, qui a été la première ville à signer la rébellion pro-accord de Paris, pour l'instant, 211 agglomérations américaines ont d'ores et déjà décidé de continuer à suivre l'accord, malgré ce qu'a dit le président Trump.
Merci à vous, Philippe Rendet, pour compléter cette fronde anti-Trump et pro-accord de Paris. Plus de 1000 gouverneurs, maires, entreprises et universitaires américains ont adressé aujourd'hui une lettre à la communauté internationale qualifiant de grave erreur la décision de Donald Trump. Tous s'engagent au niveau local à poursuivre des objectifs climatiques ambitieux.
On l'évoquait hier ici même, Olivier, les 50 ans de la guerre des 6 jours. Eh bien, autre date anniversaire dans la région, les 10 ans du blocus de Gaza.
En 2007, Israël, Michael, puis l'Égypte décident de fermer les passages et progressivement les tunnels pour isoler la bande de Gaza. Décision prise après la victoire aux élections du Hamas, le mouvement islamiste palestinien. Près de 2 millions d'habitants vivent donc aujourd'hui enfermés dans ce territoire de 40 kilomètres de long sur 12 de large. Bonsoir Mathilde Imi.
Bonsoir Olivier.
Vous revenez de Gaza où vous êtes parti à la rencontre d'une jeune génération prisonnière de cette situation politique mais qui se bat avec ses propres armes pour créer son espace de liberté. Vous avez rencontré Mathilde, la seule joueuse de batterie, la seule batteuse de la bande de Gaza.
Et elle s'appelle Nana, ado assurée de 16 ans, qui étouffe sous les règles conservatrices du Hamas, plus encore que sous le siège imposé par Israël. T-shirt noir, jeans serrés, baskets à la mode et longs cheveux bouclés. Pas de voile, sauf à l'école, c'est obligatoire. Alors son style tranche avec les jeunes croisés dans les rues de Gaza.
Être une fille et jouer de la musique, c'est déjà mal vu. Alors les filles qui jouent de la batterie, c'est encore pire. Pour eux, la batterie est réservée aux garçons. D'abord parce qu'ils pensent qu'il faut de la force. Et aussi parce que la batterie, c'est le rythme, la danse. Et ça, c'est interdit aux filles.
Nana joue chez elle avec des bassines et des cuillères en bois. Elle a commencé il y a 8 mois et vient de donner son premier concert, mais elle a dû s'arrêter à la demande de la police.
J'avais accepté les contraintes pour participer à ce concert. Faire profil bas, pas être trop expansive. Je sais bien qu'il n'est pas convenable de dire qu'on aime bien voir jouer sur scène une jeune fille aux longs cheveux frisés. Je me suis habillée avec des vêtements longs pour les convaincre que je faisais rien de mal. Mais la police est venue et m'a dit d'arrêter de jouer. J'ai pensé que tout était fini, que je ne pourrais plus jamais monter sur scène et voir le public interagir avec moi. Finalement, j'ai décidé de continuer. Je ne vais pas passer ma vie ici à Gaza. Un jour, j'aurai ma chance.
Et on entend un morceau de Ferouz Sarlayali, un peu plus vitaminé. Ahmed est à la guitare et au chant, et Moussa joue de l'oud, c'est lui qui a pris Nana sous son aile.
On fait de notre mieux pour changer cette culture négative et faire bouger ceux qui disent aux filles ce qu'elles doivent faire et ne pas faire. Il faut voir comment la société limite leurs talents et leurs rêves.
Oui, pas évident, hein, Mathilde, de faire tourner son groupe de musique à Gaza. Il y a malgré tout une exception, les mariages.
Ah oui, alors pour les mariages, il n'y a pas de problème, hein, vous avez pignon sur rue. Par contre, pour les autres, ces petits groupes joués en public et très encadrés et surveillés. Moussa a fondé son groupe Nissan après la dernière guerre de Gaza. Ils ont joué en 3 ans seulement 7 fois en concert et encore en faisant des concessions.
C'est notre plus gros problème. Si je veux faire un concert avec une institution, je dois m'imposer des limites et me conformer à ce que veut l'organisateur. Par exemple, un institut qui encourage la lecture, Eh bien, je vais jouer chez eux des standards de la chanson arabe, de la musique orientale ou classique. On n'aime pas vraiment ça, mais c'est obligatoire. Si on veut faire des concerts, on doit parfois jouer des morceaux que l'on n'aime pas.
Moussa a fondé ce groupe car il venait d'apprendre qu'il ne pouvait pas sortir de Gaza pour prolonger ses études en France. La musique, en quelque sorte, comme réponse à l'enfermement.
Et les morceaux qu'ils produisent sont d'ailleurs diffusés sur les réseaux sociaux. Les enregistrements circulent sous le manteau.
Oui, quand on a rencontré Moussa, sa répétition à l'Institut français venait d'être annulée par crainte d'une condamnation du Hamas, selon lui, car les jeunes, comme tous les jeunes, aiment bien se filmer et poster leurs vidéos, et ça se sait. Des vidéos qu'Ahmad envoie ensuite à des amis en Égypte.
On joue surtout pour nous-mêmes. On ne peut presque pas faire de concert, on ne peut pas voyager, ni avoir notre propre tournée. Jouer de la musique nous donne l'impression d'être relié au monde extérieur. La seule chose qu'on puisse faire ici, c'est se filmer et publier nos vidéos en privé sur les réseaux sociaux.
Ahmad est un fan de Metallica, mais aussi de Stromae. Il a choisi de nous jouer surtout un classique du Shaabi algérien d'Aman El Arachi.
Voilà, un air plutôt célèbre et surtout considéré comme nettement moins subversif que Metallica ou Stromae à Gaza. Reportage signé Mathilde Dehimi.
Et on l'entend souvent chez nous dans nos bureaux cet air-là. Merci Olivier Poujade, à demain.
Réception dans une demi-heure, alors allez tous vous habiller.
Et voilà!
Good morning, it's great to stay up late. Good morning.
Un jour,
good morning,
dans le monde, sur France Inter.
Et à 18h50, on part dans les ruelles de la Médina de Fès au Maroc, la plus grande et la plus ancienne Médina du pays, en pleine restauration, car ses monuments historiques et ses maisons étaient tout simplement menacés de ruines. Cette Médina est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1981, et les travaux de restauration ont commencé il y a maintenant 4 ans. Bonsoir Isabelle Pasquier.
Bonsoir.
Alors, bonne nouvelle, ces travaux ont bien avancé, mais il y avait vraiment urgence.
Oui, dans ce labyrinthe aux 9500 ruelles, 364 mosquées, 92 000 habitants et 900 ânes, Michael. Les touristes s'extasient bien sûr dans la Médina qui semble avoir échappé au temps depuis plus de 1100 ans. Ça, c'est pour le décor. Mais en 2012, près de 4000 maisons ont été recensées en état de grave dégradation, d'où ce plan de sauvegarde qui concerne toutes ces maisons délabrées, 27 monuments historiques, des médersas, ces écoles religieuses, et ces fondouks. Et c'est dans l'un de ces fondouks, ces caravanserrailles, que l'on retrouve Samir. Il brode en fil d'or et d'argent des ceintures pour les mariages.
Je fais partie d'une association des artisans ici, dans le fondouk, qui est, c'est un caravanserail. Quand on dit un fondouk, c'est en arabe, c'est un hôtel. Et auparavant, ça servait pour les caravaniers qui passaient par ici pour le commerce. Ils venaient de la Mauritanie, ce qu'on appelait auparavant Tombouctou. Il était plus ou moins dans un état lugubre. Hein. Il y avait une partie qui était déjà brûlée dans ce qu'on appelle Darbouz. C'est ce que vous voyez, le bois au premier et deuxième étage. Ça tombait en ruine. On serait obligé de fermer si ça s'effondre. Et beaucoup de gens seraient en chômage. Ils seraient à la rue. On a refait toute la boiserie. On a tout retapé. C'est du bois de cèdre. C'est le cèdre qu'on a ramené de la montagne, du Moyen Atlas, du Grand Atlas. C'est très important pour nous, cette rénovation. On retape les fondouks, on retape les maisons, on retape les ruelles, parce que notre histoire, c'est notre identité. C'est un patrimoine qu'il faut protéger, il faut le revaloriser.
Et aujourd'hui, on offre 8000 euros aux habitants des maisons en mauvais état pour les restaurer et pour inciter les gens à rester habiter dans la Médina. La Médina qui a longtemps souffert de sa surpopulation, car il y avait beaucoup de familles qui venaient de la campagne, qui s'entassaient dans les maisons en bord de ruine. Mais depuis la fin du protectorat, avec la construction d'une ville nouvelle, la Médina s'est vidée chaque année de ses habitants, qui préfèrent bien sûr le confort à l'exotisme dont raffolent les touristes. Alors cette restauration, donc, elle a essentiellement aussi pour but de faire revenir les classes moyennes. Fouad Serini dirige l'agence de développement et de restauration de la Médina de Fès.
Nous avons une régression de la population démographique. Ici à Fès, nous avons à peu près quelque chose comme 370 exactement ménages qui quittent annuellement la médina. Il y a eu de l'offre à l'extérieur de la médina. La dégradation accentuée a poussé les gens à quitter. Mais nous, on n'a pas intérêt à avoir une ville déserte. On a intérêt à garder une vie avec son âme, avec sa population. Mais cette population doit être épanouie dans ce patrimoine-là et trouver la possibilité de créer des activités à travers notre héritage, à travers l'artisanat. Et il y a beaucoup à faire, ne serait-ce qu'au niveau des designs et patrimoine, comment le développer, comment le revendre d'une certaine manière plus moderne.
L'atout de Fès, bien sûr, c'est son artisanat haut de gamme, sauf que pour des questions de pollution, de risque de feu, les potiers, les ferblantiers ont été installés à l'extérieur de la médina et que la plupart des 40 000 artisans ne font en quelque sorte que survivre pour Samir, l'avenir est dans la tradition.
Il faut différencier entre l'artisan qui travaille avec le touriste et l'artisan qui travaille pour la vente au quotidien des gens et des habitants. Des choses pour les habitants de la ville de Fès et les habitants, par exemple, qui ne sont pas destinés pour le touriste. Ce n'est pas le calvaire, mais ce n'est pas la belle vie. Hein. Alors bon, les artisans, je vois un bon avenir si jamais ils continuent à chercher la qualité. Mais s'ils cherchent à faire, comme on dit actuellement, de la chinoiserie, ça veut dire comme les produits chinois qu'on achète ici et qu'on jette dehors, à la porte du magasin, ce n'est pas la peine.
Si la médina ne sauvegarde donc pas son patrimoine architectural, son savoir-faire artisanal, sa population, elle risquerait bien de se transformer en musée zoo pour les 400 000 touristes qui viennent chaque année dans la capitale spirituelle du Maroc.
Reportage au cœur de la médina de Fès, signé Isabelle Pasquier. Merci.
France Inter, le 18-20. Un jour dans le monde.
18h55, l'heure de l'édito. Bonsoir Anthony Bélanger.
Bonsoir Mickaël, bonsoir à tous.
Et ce soir, on repart aux États-Unis. Anthony, avec cette enquête publiée ce matin dans le New York Times, enquête très inquiétante sur le nombre de morts par overdose dans le pays.
Et c'est une enquête particulièrement bien documentée, on comprend pourquoi, puisque le nombre de morts est assez gravement souligné et qui est partout reprise depuis ce matin, tant les chiffres qu'elle publie sont terrifiants. Il y a eu en 2016 62 500 Américains morts d'overdose d'opiacés de synthèse ou opioïdes. Alors ce n'est pas le chiffre en soi qui est inquiétant, même s'il est absolument énorme. Les États-Unis sont 5 fois plus peuplés que la France. Ce qui est inquiétant, c'est l'augmentation d'une année sur l'autre de ces overdoses entre plus 19 et plus 25% entre 2015 et 2016. C'est tout simplement la plus forte augmentation jamais constatée aux États-Unis. C'est simple, en 2 ans, c'est-à-dire de 2014 à 2016, le nombre de morts a doublé et cette tendance ne semble pas faiblir pour 2017. Je vais même vous donner un chiffre peut-être encore plus frappant, donné par la presse et les milieux médicaux américains. En 1995, au pic de l'épidémie de sida au Canada, vous savez, le pays voisin qui est également infecté, 1764 personnes sont décédées. Et bien l'année dernière, 2000 Canadiens sont morts d'overdose.
Alors on parle d'overdose d'antidouleur, expliquez-nous.
C'est ce qui est un petit peu compliqué. Il y a 3 niveaux d'antidouleur, il faut bien le savoir. Il y a d'abord le banal paracétamol de tous les jours. Et puis ensuite, il y a le paracétamol codéiné ou de tramadol, niveau 2 donc. Mais il y a aussi un niveau 3, des substances très addictives et très puissantes. Celles-là sont les fameux opiacés de synthèse ou opioïdes. On y trouve des substituts d'héroïne, Subutex et méthadone, mais aussi des molécules utilisées aux États-Unis, mais aussi en France, pour toutes sortes de douleurs chroniques. Il s'appelle oxycodone, fentanyl ou la dernière en date, le carfentanyl. Encore une fois, un exemple précis. Le carfentanyl est 100 fois plus puissant que son cousin, le fentanyl, mais surtout 10 000 fois plus puissant que la morphine. Imaginez les ravages que peut produire une telle molécule lorsqu'elle est vendue au marché noir. Un autre exemple, le 5 avril 2016, le carfentanyl, donc la fameuse molécule 10 000 fois plus puissante que la morphine, a commencé à être vendue par les dealers de la ville d'Akron, dans l'Ohio. En l'espace de 9 heures, 17 personnes ont fait une overdose et une est décédée. Et en 6 mois, ce sont 170 usagers de la ville qui sont morts. Or, ces opiacés de synthèse, très puissants, ont fait l'objet de campagnes agressives de marketing des entreprises pharmaceutiques. En clair, pendant des années, les médecins américains les ont prescrits sans compter. La prise de conscience est récente et, pour tout dire, tardive.
Et aujourd'hui, qui sont ces usagers d'opiacés de synthèse?
Il y aurait aux États-Unis 5 à 8 millions de personnes soignées aux opioïdes et près de 100 millions qui souffriraient de douleurs chroniques, un Américain sur 3. Mais là aussi, il faut raison garder et bien distinguer ce qui relève d'un traitement normal et d'un abus caractérisé. Le problème est que, quoi qu'il arrive, ces opiacés de synthèse sont infiniment plus addictifs qu'on ne l'imaginait, que la frontière entre le traitement de la douleur et l'addiction pure et simple, voire une utilisation récréative, est très difficile à établir. D'où les réticences de plus en plus fortes des médecins américains à prescrire ces opiacés de synthèse, et le développement parallèle, évidemment, du marché noir sous toutes ses formes. Hein. Ordonnances falsifiées, ventes sur Internet ou au coin de la rue, tout bêtement. Mais ce qui est fascinant avec ce que les Américains appellent déjà une épidémie d'overdose, c'est la différence de traitement avec la dernière épidémie en date, celle du crack, un dérivé de la cocaïne. C'était dans les années 90. Celle-là avait été traitée quasiment uniquement de façon judiciaire et carcérale. En clair, on emprisonnait les usagers comme les dealers et pour des peines souvent très lourdes. La présente épidémie d'overdose, elle, est traitée uniquement de façon médicale. En fait, la seule vraie différence entre les deux est dans le type de public touché. L'épidémie de crack touchait des noirs, que l'on incarcérait donc, alors que celle d'opioïdes contemporaine touche presque exclusivement des blancs que l'on soigne avec compassion.
Anthony Bélanger, merci. Dans une vingtaine de minutes, le téléphone sonne en forme d'alerte. Alerte sur les graves troubles du comportement et de l'attention de plus en plus fréquents chez les jeunes enfants. La faute à la surexposition aux écrans trop tôt, trop souvent, trop longtemps. Les risques sont bien réels et nombreux. Vos questions, vos commentaires dès maintenant au 01 45 24 7000 et dans moins d'une minute, le journal de 19h.